Eh non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Ah, dichats à toutes, c'est Dany Baillet, le gourmandas. Le gourmandas, pourquoi? Parce que dans notre belle langue gasconne, le suffixe a une importance capitale. Regardez par exemple un chien, une can. Si vous y ajoutez hotte, c'est un cagnotte, un petit chien. Si vous y ajoutez oum, ça fait un cagnoum, un mignon petit chien. Et si vous ajoutez a, ça fait une cagnasse. Et là, ça se passe de commentaires. Salut à tous, c'est le retour du gourmandas, comme m'appelait ma mère Léa. Et aujourd'hui, pour reprendre cette nouvelle session, nous allons parler des poissons de la saison, des poissons gourmands évidemment de la saison, qui sont consommés dans la région et pêchés dans la région. Je voulais parler bien sûr à la saison de la lamproie. Donc on va voir comment se présente-t-il, où peut-on les trouver, comment les pêcher bien sûr. Et naturellement, ça fait partie de notre rubrique, c'est même le fondement, comment les cuisiner et les déguster. Alors, pour la lamproie, ben, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, puisque c'est un poisson très, très, très étonnant, dans le sens où c'est une espèce d'abord extrêmement ancienne, on l'a dit, de plusieurs dizaines de millions d'années, puisqu'il s'agit en fait d'un fossile serpentide préhistorique, donc tout ce qui inspire la peur. Et quand on le voit encore plus, la chance que vous avez, c'est que vous n'aurez pas de photos aujourd'hui. Donc c'est une espèce très très ancienne de poisson. On en trouve 38 exactement dans nos rivières de la région. Un poisson dit agnate, c'est-à-dire un poisson qui n'a pas de mâchoire mobile, comme n'importe quelle autre espèce d'animal ou de poisson. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a autour de sa bouche, ce qu'on appelle la clarinette dans le jargon local des cuisiniers, c'est une énorme ventouse avec au milieu une centaine de dents acérées, de petits piquants, de petites dents acérées, à partir de laquelle ce poisson, qui est un suceur de sang, voilà, un vampire, on l'appelle le vampire, vampirise tous les autres poissons et notamment la lose, dans le circuit bien sûr des rivières ici, pour ne nommer qu'elle, lorsqu'elle remonte de la mer dans nos rivières pour pondre, eh bien la lamproie se colle à la lose avec cette ventouse, lui plante les dents et se fait transporter, non seulement transporter, mais suce le sang de la lose qui au bout d'un moment meurt. À partir de ce moment-là, la lamproie se raccroche à une pierre en attendant le passage d'un autre poisson, et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée du point où elle s'est fixée. Alors bien sûr, on la trouve ici sur la lose parce que c'est le poisson qui la transporte le plus dans nos rivières, un poisson qui peut peser jusqu'à 3 kg ou 3,5 kg. Mais on la trouve aussi parfois sur les cachalots, en mer, enfin un peu partout où elle peut s'accrocher et se faire transporter. Je vous l'ai dit, plusieurs dizaines de millions d'années, un poisson extrêmement surprenant. Voilà, alors on dira lors de la présentation de la dégustation qu'il n'est ni viande ni poisson. Il est un fossile serpentide, déjà c'est assez étonnant, mais quand même quelque chose d'extrêmement fin, d'extrêmement distingué et d'extrêmement délicieux. Donc, bien sûr, c'est un très vieux vertébré qui vit toujours dans l'Atlantique Nord, naturellement, et aussi, et c'est la raison pour laquelle on le trouve dans la région, sur les littoraux atlantiques. Depuis la mer, il prend bien sûr les rivières, essentiellement la Garonne, qu'il fréquente bien, la Dordogne, l'Isle, mais aussi l'Adour, pour ne nommer que les principales. Voilà, ce qui me concerne à moi, bien, j'en ai pêché dans le Gabas, vous voyez, c'est un affluent de l'Adour. J'en ai pêché à la main, au pied d'une digue, d'une retenue d'eau. Et on en trouve quand même parfois au pied, notamment des retenues d'eau, où elles se collent aux pierres en attendant de pouvoir aller plus loin. On l'appelle aussi donc le poisson vampire, et c'est vrai, puisqu'elle remonte les fleuves au printemps, sous forme de lamproie ou d'autres formes de lamproie, puisqu'on la trouve aussi sur le... Là, il y a différentes espèces, enfin il y a 38 espèces en tout. Donc il y a des grosses lamproies, comme la lamproie qui est sombre, blanche et noire, mais aussi il y a des toutes petites lamproies, qui sont comme une petite anguille d'un an à peu près, qu'on appelle dans la région ici lamproyon ou lamproyote, je ne sais pas si c'est le terme exact, parce que le terme exact en latin il est extrêmement savant, donc je vais vous en faire grâce pour aujourd'hui, mais on dira qu'on l'appelle lamproyon ou lamproyote, qui ne se prépare pas du tout de la même façon, mais qui a la même configuration, même s'il est plus petit, que la lamproie, c'est-à-dire qu'il est longiligne avec une ventouse et les dents, donc c'est la même famille bien sûr que la lamproie de taille supérieure. Ce que les Landais et les Girondins piègent sur la Doure, la Garonne et la Dordogne, ce sont des lamproies en général, mais aussi ces petits lamproyons qui sont un peu le privilège du pêcheur. Si on va vers les bords de la Garonne, par exemple, j'ai un de mes amis qui est pêcheur professionnel là-bas, qui les attrape dans des filets à patates, qu'il distribue dans des fossés, des petits fossés contigus à la Garonne. Et lorsque l'eau remonte un peu, elles viennent se mettre à l'abri, ces petites lamproies viennent se mettre à l'abri et se mettent cachées dans ce filet. Donc pour se protéger, c'est ainsi qu'on les attrape, c'est assez difficile et assez rare. Elle reste donc un peu, le lamproyon reste le privilège du pêcheur, mais pour les autres lamproies, elle peut atteindre 1 mètre et peut peser jusqu'à 2,5 kg, la moyenne étant plutôt située entre 900 g et 1,1 kg. Voilà. Donc la lamproie, elle naît en rivière, elle grandit, en vampirisant les poissons. C'est pas compliqué, elle s'accroche à un poisson, elle fait rentrer petit à petit ses dents dans la chair du poisson, elle suce son sang car la lamproie n'a pas d'estomac, elle a simplement 2 petits canaux, elle vide du sang sucé exclusivement. Donc en vampirisant les poissons, elle leur suce le sang, elle se nourrit de ça et elle se développe. Au bout de 2 ans à peu près, elle peut retourner dans la mer. Elle reste dans la rivière pendant 2 ans, elle retourne dans la mer. Et au bout de 3 ou 4 ans, elle remonte à nouveau dans les rivières pour se reproduire, pour frayer. Donc, et pour se reproduire, c'est là qu'on la prend et qu'on la pêche. Alors je vous l'ai dit, fossile serpentide, déjà ça fait peur. Bien sûr, préhistorique naturellement, entendez par là, c'est un corps de serpent, ni plus ni moins. Recouvert de mucus, un peu comme l'anguille, le mucus est cette matière collante qu'elle met pour se protéger et se glisser, notamment entre les racines et la végétation des fonds de rivière. Donc elle a le corps recouvert de mucus et qui réceptionne sur lui, ce mucus, bien des couches fines de gravier et de sable du fond des rivières qui la protège donc des éléments, aussi des morsures. Et donc ce sable accolé, qu'on enlèvera bien sûr lorsqu'on cuisinera, on verra ça plus loin, la lamproie. Son originalité bien sûr, c'est d'être un poisson vampire, je vous l'ai dit déjà, donc la tête et la bouche séparées du tronc par 7 à 8 branchies. 8 branchies, donc c'est ces petits trous, ces petites excavations dans son cou, entre la tête et le reste du corps, qui lui permettent de respirer, c'est sa façon de fonctionner. Ce sont des branchies, et donc qui la distinguent des autres poissons, qui en fait que cette partie de la tête et des branchies donc sont peu consommables, on dira, pour la suite à donner. Alors la tête, nous ici dans la région, les pêcheurs et les cuisiniers locaux l'appellent clarinette, en rapport avec sa forme un peu allongée, sur la bouche fermée. Dès qu'elle l'ouvre, bien, sa bouche parfaitement ronde, donne une grosse ventouse avec à l'intérieur ces horribles dents. C'est une centaine de dents, voilà, donc c'est qui parsèment tout l'intérieur de la bouche et qui font comme des petits pics qui, une fois la ventouse collée à la chair, se met, les dents avancent un peu dans le palais, se mettent en avant, se collent sur la chair et se mettent en place comme un outil de succion qui, petit à petit, va, en trouant la chair du poisson, consommer son sang et permettre à la lamproie de se nourrir et de fonctionner tout à fait normalement. Alors la tête lui permet de se fixer sur une pierre par exemple, c'est-à-dire que avec la force des courants, parfois lorsqu'elle est fatiguée, la lamproie se colle avec sa ventouse sur une pierre, elle ondule un peu et attend le passage d'un poisson, notamment de la lose à la saison. Dès que le poisson passe, elle se détache, se colle sur le poisson et se fait transporter, puisque le sang qu'elle suce, elle ne le suce pas tout de suite non plus, bien sûr. Enfin, ça ne fait pas l'effet tout de suite, hein. Ça ne sont pas des dents de la mer. Donc, petit à petit, elle est entraînée, transportée plus loin. Et au bout d'un moment, elle commence à pomper le sang du congénère qui la transporte, donc le fatigue. Elle se pose et à nouveau et reprend possession de notre animal pour continuer sa route. Quelque chose donc d'assez étonnant. Alors voilà, cette lamproie, donc voilà un peu pour sa présentation, un animal mythique et très très étonnant de par son style de fonctionnement, de par sa morphologie, de par sa tête et sa migration. Alors elle se pêche dans la région bien sûr, soit par des amateurs, c'était mon cas à moi, ou par des professionnels au filet ou dans des grosses nasses dans lesquelles elle vient se protéger des courants, courants qu'elle affronte pour remonter le cours des rivières, et ce qui naturellement doit la fatiguer. Alors pour l'autre pêche de amateur ou professionnel, c'est surtout la pêche avec des grosses nasses, des nasses spéciales, un peu comme l'anguille mais beaucoup plus gros, dans laquelle la lamproie, qui sont disposées sur le fond, et dans laquelle la lamproie rentre pour se protéger des effets du courant. Elle se met à l'abri à l'intérieur de cet habitacle et va y trouver un peu de paix et de sérénité avant que le pêcheur, bien sûr, ne la remonte et ne la récupère. Donc la pêche la plus connue, c'est celle-là. Moi, j'en ajouterai une personnelle qui est celle la nuit de prendre les lamproies accrochées à des pierres par la main. Ça s'est pratiqué, bien sûr, je ne le pratique plus, mais ça s'est pratiqué. La lamproie étant accrochée à une pierre, il suffisait de l'éclairer, de l'attraper. On levait parfois la lamproie d'ailleurs avec la pierre, qu'elle finissait par relâcher, puisque sa ventouse relâchait au bout d'un moment. Et donc on pouvait pêcher aussi la lamproie à la main, c'était notre méthode à nous. Voilà. Donc plusieurs modes de pêche. La pêche se fait dans la région ici, dans les rivières, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, puisqu'elle remonte essentiellement dans la Garonne, dans la Dordogne, dans l'Isle et dans la Dour. Voilà, donc on peut la trouver aussi dans de plus petits courants, mais c'est quand même plus rare. Alors avant d'entrer bien sûr dans la phase que nous attendons tous, celle de cuisiner et de consommer naturellement la lamproie, ben, je vous invite à une petite pause musicale avant de reprendre le cours de l'histoire.
Marseille, quand s'éveillent les beaux jours de la belle saison, dans les bacs, on s'embarque pour taquiner le poisson. Les girelles nous appellent comme des sirènes dans la mer, et l'on jette, quelle fête, l'hameçon dans les flots verts. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des joyeux marseillais. Les plus fainéants pour pêcher se dépêchent, les plus blasés ne s'enlacent jamais.
Quand ça pite, 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 quand ça pite à l'hameçon, on retire vite, vite, on retire le poisson.
À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des Marseillais. Les plus fainéants pour pêcher se dépêchent, les plus blasés ne s'enlacent jamais.
Quand ça pite, 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 quand ça pite à l'hameçon, on retire vite, vite, on retire le poisson.
À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des Marseillais. La tempête qui nous guette n'arrête pas les vrais pescadons. Si la vague fait des blagues, eh ben nous nous pâtissons et c'est tout. Mes pêcheurs vers la terre, lorsque bredouille nous revenons, on s'arrête chez Villette qui nous vend du bon poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des joyeux marseillais. Les plus fainéants pour pêcher se dépêchent, les plus blasés ne s'enlacent jamais.
Quand ça pite, 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 quand ça pite à l'hameçon, on retire vite, vite, on retire le poisson.
À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des Marseillais.
MDM, tout un monde.
Tout un monde.
Bon, après cette pause, revenons à notre visée gourmande, c'est-à-dire comment consommer la lamproie. Et bien sûr, naturellement, pour la consommer, il y a deux méthodes. La première, c'est d'abord de pouvoir naturellement, comme c'est très facile partout, en acheter dans un bocal qui a déjà été cuisiné par un chef ou par des conserveurs. C'est naturellement une solution qui est souvent intéressante dans le sens où elle est relativement compliquée à trouver et à cuisiner. Donc si vous ne voulez pas vous faire de soucis, il y a deux solutions. C'est soit de l'acheter toute cuisinée ou soit bien sûr de la consommer dans les restaurants qui en proposent. Il y en a quelques-uns dans la région qui les font notamment bien, très très bien. Et je pense notamment d'ailleurs à Saint-Sevé, à l'ami Eric Costedouat qui nous fait une présentation très sympa de la lamproie, entre autres bien sûr. Donc n'hésitez pas, rendez-vous dans les restaurants pour en manger, qui en proposent. C'est un poisson de saison qui mérite une cuisine un peu sophistiquée, assez difficile, assez longue à préparer. Et sinon, ben écoutez, de la conserve toute faite, de très bonne qualité, il y en a aussi et on en trouve très facilement. Mais bien sûr, comme vous et moi, nous sommes un peu des puristes et des gourmands, rien ne nous interdit naturellement de vouloir tenter par nous-mêmes de préparer la lamproie. Alors plusieurs recettes existent, hein, donc il y en a de très très sophistiquées, via la nouvelle cuisine, notamment trois recettes très connues qui ont été maintenant mises en avant par Jean-Marie Amat au Saint-James à Bordeaux, donc recettes de cuisine revisitées façon très moderne. Moi, je vais vous en présenter une ici très simple, enfin, qui est de la plus ancestrale et la plus connue, c'est la lamproie dite à la bordelaise. Donc avec le maximum de détails dans lesquels je vais essayer de rentrer pour avoir moi-même deux fois cuisiné ça, mais je salue surtout ma belle-mère qui la cuisine merveilleusement bien. Donc pour faire de la lamproie à la bordelaise, bien, il faut naturellement récupérer des lamproies vivantes. Ça va de soi. Donc les lamproies vivantes, sachant qu'on va dire qu'elles pèsent entre 900 grammes et 1,5 kg à peu près. Donc si vous voulez en faire par exemple 5 kg, il faudra à peu près 3 à 4 lamproies. Voilà, vous les récupérez vivantes soit chez un pêcheur, ça peut arriver, dans la région ici il y en a, qui les pêche en direct si vous connaissez, notamment du côté de Peyrorade. Sinon, ben écoutez, votre poissonnier va les trouver assez facilement, si le poissonnier, du moins, ne fait pas que porter le nom, mais connaît son métier. Et je salue à Saint-Sevé notamment mes copines qui savent très très bien la préparer et en plus de ça, qui la vendent à la saison, donc de très très belles lamproies. N'hésitez pas à vous rendre chez votre poissonnière ou votre poissonnier pour récupérer les lamproies vivantes. Les lamproies vivantes, une fois que vous les avez récupérées vivantes, eh bien il faut, je vous parlais tout à l'heure du limon qui se trouve sur leur mucus, sur ce collant qu'il y a sur la peau, un peu comme l'anguille, comme un peu tous les serpentides, comme ça. Donc il faut, pour éviter donc d'avoir ce limon dans la cuisson, bien évidemment, qui fait une protection de la peau, il faut les tremper dans l'eau bouillante environ une dizaine de secondes. Dans l'eau bouillante, une dizaine de secondes, ensuite on va racler avec le dos d'un couteau ou avec une brosse ou avec un chiffon ou avec un filet de patate, qui est encore le mieux. On va frotter la peau de la lamproie et lui ôter tout ce limon, ce qu'on appelle l'opération de limonage. Lorsqu'on a raclé, donc, que la peau est toute fine, ben on va l'essuyer, on va la réserver, on fait pareil pour chacune des lamproies. Le top, c'est avec le filet de patate, tout simplement, puisque c'est une vieille pratique, mais comme ça gratte un peu, c'est parfait que le sable va se décoller. On va avoir ensuite une peau extrêmement lisse, puisque la lamproie n'est pas pelée, contrairement à l'anguille. Donc, la peau doit être très propre, très nette. Par la suite, opération, on va coucher la lamproie, on va lui tailler le bout de la queue et la suspendre pour pouvoir la saigner, car il faut récupérer le sang dans un petit saladier dans lequel nous aurons préalablement mis un peu de vin pour empêcher la coagulation du sang. Par ce sang va nous servir, il est très important, pour lier la sauce un peu plus tard. Donc on suspend la lamproie par la gueule et on l'entaille près de la queue pour qu'elle saigne. Elle va se saigner, la chair va devenir très claire, très belle. Et on récupère le sang mélangé avec un petit peu de vin rouge. Dès que ça, cette opération est terminée, au bout de 10 à 15 minutes à peu près, on va coucher la lamproie et là on va l'entailler depuis la queue jusqu'à la tête en faisant très attention parce que c'est quelque chose d'assez fin. Un pour ne pas abîmer l'intérieur parce qu'il y peut y avoir des œufs si ce sont des femelles. Il peut y avoir naturellement, bon, il n'y a pas d'estomac hein, puisqu'il y a ces deux canaux qui s'appellent des cordons. Il y a aussi les branchies, donc tout ça doit être fait assez délicatement. On va récupérer tout ça, enlever tout ça. Et ces deux petits canaux, qui sont les seuls éléments que vous trouverez dans le ventre, lorsque vous enlevez le ventre d'un poisson, c'est plus compliqué. Là, la lamproie, il n'y a que ces deux petits canaux, puisqu'elle vit du sang. Or, on va enlever tout ça. Et la lamproie, une fois fendue, donc taillée, on va la laver un petit peu. Certains la lavent même déjà au vin rouge pour préparer la sauce. Et on va couper cette lamproie en 6 à 7 tronçons, sachant qu'un des tronçons comportera la tête et les branchies qui permettent de respirer. Donc ça, et bien sûr, il faudra la mettre de côté pour la sauce, mais qu'on ne va pas forcément utiliser pour la faire cuire. Donc, vous avez vos morceaux de lamproie maintenant, ils ont été nettoyés, prêts à aller, vous allez les réserver. Donc là, lamproie a été fendue, on a retiré les cordons, on a retiré les branchies, et là, ce qu'on appelle la clarinette, c'est-à-dire la tête. Les nerfs sont faits à l'intérieur, ces nerfs donc, dans lesquels circule le sang, sont aussi retirés pour éviter un peu ce goût acide, ce goût un peu âpre qu'ils peuvent donner par la suite à la sauce. Alors, pour une recette que je vais vous donner indicativement avec 5 kg de lamproie, c'est-à-dire 4 belles lamproies, il faut compter 1 litre de vin jeune et assez tannique par kilo de lamproie. C'est-à-dire qu'on comptera ici à peu près 5 litres de vin qu'on va cuire un peu plus tard. Ensuite, compter la recette étant une recette avec des poireaux, on va prendre les poireaux bien fermes et on va compter 2 kg de poireaux pour 1 kilo de lamproie, le double de poids en réalité. Sachant qu'on va après affiner ces poireaux. On va en parler plus tard. Ensuite, vous préparez de côté un peu de lard. Si vous le pouvez, un peu de jambon. C'est pas mal non plus. C'est même très bien. Que vous allez mettre de côté avec deux beaux morceaux de couenne qui vont aller dans la sauce par la suite. Un très beau bouquet de persil. Il ne faut pas avoir peur. Et du sel et du poivre pour évidemment corriger l'assaisonnement. Ça, c'est la lamproie bordelaise au vin rouge. Qu'on peut faire bien sûr naturellement aussi. Au vin blanc, j'en ai déjà goûté, c'est absolument délicieux. Ça, c'est la recette la plus connue. Alors, première phase, préparer les poireaux. Donc, on va garder le blanc. Couper le blanc, il fait à peu près 10 à 12 cm. On va le mettre de côté, on va garder tous les blancs. Que nous allons ensuite, ces 12 cm, recouper en quatre morceaux, à peu près. Et donc, ces poireaux sont mis de côté. Nous allons ensuite les mettre dans une poêle avec un peu de gras. Moi, je fais avec de la graisse d'oie ou de la graisse de canard, mais on peut faire aussi avec de l'huile, bien évidemment. Hein. Et donc, on va faire revenir doucement ces poireaux pour les ramollir un petit peu et leur donner un peu de sucré. Donc, dans une poêle et les réserver aussi. Donc, deuxième chose, par la suite, nous allons cuire le vin et le flamber. C'est-à-dire que le vin, on a 5 litres de vin, qu'on va faire chauffer, arriver à ébullition, et là on va carrément le faire flamber, c'est-à-dire faire brûler l'alcool qu'il y a. Il faut que le vin brûle bien, parce que les vins sont assez tanniques, et donc pour qu'il ne marque pas trop le goût de la sauce, qu'il ne dépasse pas la lamproie, il faut qu'il soit bien flambé. Ensuite, nous allons préparer un hachis, ben, c'est la recette type d'un civet ou d'un salmi. Donc faire un hachis à base du foie de la lamproie, une partie magnifique qu'il faut récupérer, qui est près de la tête, l'oignon, de l'échalote et du laurier. Donc quand nous avons fait tout ce hachis de cette présentation, nous allons disposer la chair et les poireaux dans une cocotte. Et on va d'abord faire passer quelques minutes, les morceaux de lamproie pour les faire dorer à peine, avec dans le fond un peu de gras. Et alors ça n'est pas obligatoire, puisque toutes les recettes ne l'obligent pas, mais moi je préfère le faire, à peine pour le dorer des deux côtés, avec un peu d'échalote et d'oignon, bien sûr comme on fait pour n'importe quel type de cuisson, et un peu d'ail. Donc on fait revenir un peu les morceaux, dès que ça a commencé à prendre un peu du doré, on va rajouter les poireaux, bien sûr. Le vin ayant bouilli, on va le rajouter aussi. On va mettre dans la grande cocotte dans laquelle nous aurons disposé tous ces morceaux et disposé aussi naturellement tout le poireau. Eh bien, on va y mettre un bouquet de persil, un beau bouquet de persil, un peu haché, et le vin bouillant avec 4 à 5 morceaux de sucre, si c'est un type de recette. Ça dépend des vins que l'on y met. Moi, si j'y mets du Mory, hein, c'est un vin dont la finale est très chocolatée, on obtient avec le sucre la même chose qu'avec le chocolat, à peu près, c'est-à-dire adoucir et épaissir un peu la sauce. Alors bien sûr, certains, avant de mettre les morceaux dans la sauce, les morceaux de l'emproie, les farines, pourquoi pas, ça lie la sauce naturellement. Moi, je mets ma préparation donc, de hachis dont je vous ai parlé tout à l'heure, je la mets dans la sauce qui a commencé à cuire un petit peu, à bouillir avec le vin. Et donc, comme j'ai quelque chose qui est devenu un peu épais, avec le foie de l'emproie, l'oignon, l'échalote, le laurier, je mets tout ça ensemble donc, dans la sauce, ça me l'épaissit un peu, donc je ne tiens pas trop à fariner les morceaux. Mais on peut naturellement le faire comme dans toute forme de gibier, en salmi ou en civet. Quoi, hein. Alors on attend, quand on a mis les 4 morceaux de sucre, ou si le vin ne le nécessite pas, on ne le met pas, hein. On attend que le vin soit porté à ébullition, c'est-à-dire environ, on va compter 1 heure à 1 heure et demie de cuisson. Dès qu'il est à ébullition, vraiment avec un feu assez fort, voilà, donc dans la cocotte, on laisse cuire environ 1 heure et demie, tout ça va se fondre un peu, et par la suite, on va fermer aux 3/4 la cocotte, et on va laisser le feu au strict minimum pendant au moins 3 heures, donc parfois ça peut être 4 heures aussi, donc en faisant tout doucement, ça va permettre à l'ensemble de se lier, de se parfumer, de prendre toutes les épices, de se fondre. C'est vraiment un moment assez merveilleux, puisque au bout de ces 3 heures de temps, on verra déjà où on en est. On doit arriver à une sauce assez liée, un peu sombre, un peu bringée, qui sent bon, qui exhale tous les parfums et du poisson, parce que le poisson est fondu déjà dedans. Alors on dit poisson, en réalité, cette chair assez étonnante, pour moi, elle n'est ni viande ni poisson, puisque c'est un fossile serpentide, mais quand on l'appelle poisson, ça ne ressemble pas non plus du tout. D'ailleurs, il ne faut pas, à la fin de votre cuisson, que ça ressemble à du poisson, parce que sinon ce serait étonnant. Donc c'est une chair un peu foncée, qui est très douce par contre, qui va très très bien en bouche, et avec la sauce un petit peu sucrée, vous allez voir qu'il va donner quelque chose de merveilleux. Alors pourquoi je fais ce petit appel à sucré? Parce que là, c'est la recette type bordelaise avec des vins rouges. Alors quand on parle de vins rouges, ben, ma belle-mère et sa famille, comme ils sont originaires des Côtes de Bourg et qu'on est dans un plein pays à l'estuaire, dans le Blayais, des vins de Bourg, des vins assez tanniques, des vins puissants. C'est vrai que le vin de Bourg va très très bien pour faire les sauces. Certains parlent de Saint-Émilion. Mais il faut des vins tanniques, bien évidemment. Mais on peut aussi réaliser cette recette avec des vins moelleux, même j'allais dire liquoreux, voire très liquoreux, voire des grands sauternes, et boire du sauterne avec la sauce à la lamproie à la bordelaise. Même peut-être boire du sauterne avec de la sauce, ça m'est arrivé, de la sauce faite au vin rouge et sans aucune gêne, croyez-moi. Donc plein de choix, il n'y a pas de dictature pour la gastronomie, ni pour déguster, ni pour découvrir, encore moins. Donc en tout cas, régalez-vous, n'hésitez pas, et rendez-vous sur nos ondes la prochaine fois, on parlera de la loze. Retrouvez Lou Gourmandas en podcast sur le site www.radio-mdm.fr. Adichas, à bientôt.